Vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure du lobby, le rendez-vous LGBT+ du 93.9.
Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrées au-delà.
Bonsoir Paris.
Salut. Yeah. Alors bienvenue.
C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
I'm like so gay, dude.
Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de souci.
Je pensais avoir tout vu, ou presque, des agissements des lobbies.
Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Darling, I want my gay rights now.
Si tu dis à un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre.
Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
Moi, je sais bien quand c'est sexiste, je me rends compte assez vite quand même.
C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
Le lobby sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous au sommaire aujourd'hui. La grève féministe, ça vous parle? Elle aura lieu ce samedi 8 mars partout en France et c'est à cette occasion que nous recevons une membre des Femmes-Rêves ou Féministes Révolutionnaires, une association qui existe depuis 2016. Pour nous parler de cette grève et de leurs actualités politiques, plutôt nombreuses cette année, pour ce fait, nous avons avec nous Clémence, militante aux Femmes-Rêves. Bonjour.
Bonjour.
Tu seras interviewée par Sam, qui rejoint l'équipe du lobby aujourd'hui. Sois le bienvenu, ça va?
Oui, impec.
On en parle dans un instant. Mais d'abord, je vous présente l'équipe qui nous accompagne ce soir. Autour de moi, Chat, alias Père Castagne. De quoi vas-tu nous parler ce soir?
De comptabilité, de chiffres, d'horreur.
Trop hâte. On aura également une deuxième chronique en fin d'émission. Mal, de quoi tu vas nous parler?
Eh bien moi, je vais vous parler des États-Unis avec ma double casquette scientifique transpédagogique.
Également à mes côtés, c'est le retour d'Emma qui nous rejoindra tout à l'heure, dont vous avez déjà entendu la voix dans les épisodes du Lobby du vendredi, avec qui nous parlerons des bars queer à Paris et en banlieue. Nos trois invités sont pour l'instant en régie, je garde un peu de suspense, mais ça promet d'être passionnant. Pour finir, vous vous demandez peut-être quelle est cette voix qui vous parle, vous qui êtes habitué à celle de Colin, qui présente l'émission depuis 5 ans. Eh bien, le Lobby, c'est une grande équipe désormais, et on essaie de se faire passer le micro autant que possible. Je m'appelle Zoé, vous m'avez aussi peut-être déjà entendu dans les hebdos, et j'espère mener à bien cette émission ce soir, malgré ma voix un peu enrhumée. C'est la dernière émission de l'hiver, c'est pour se mettre dans l'ambiance. Voilà, vous avez le programme, on est ensemble et en direct jusqu'à 21h, et c'est Suzanne qui réalise cette émission.
Le Lobby Radio Campus Paris.
Bonjour Clémence, tu es militante aux Femmes-Rêves et depuis quelques semaines, tu es avec tes co-militantes dans les starting blocks pour le 8 mars. Ça s'annonce comment cette grève samedi prochain?
Elle s'annonce, déjà. Non mais déjà, en fait, le fait qu'elle s'annonce, c'est déjà quelque chose qui est très bien. Parce que c'est pas si vieux le fait qu'on annonce la grève féministe le 8 mars en France, ça fait à peine une petite dizaine d'années, depuis 2017 à peu près. Parce que je rappelle qu'avant, on arrêtait à 15h46 et on commençait la grève, parce que c'était le moment où on voyait que les femmes n'étaient plus payées. Et maintenant, en fait, le fait qu'on puisse faire grève tout le 8 mars, en fait, c'est déjà génial. Donc rien que le fait qu'elle soit annoncée, c'est incroyable. Voilà.
Super. Alors du coup, je reprends la main. Donc, je voulais savoir comment la grève avait évolué ces dernières années, donc au niveau de l'organisation, de la communication, comme tu viens de dire, quels sont les nouveaux outils?
À chaque fois, nous, la grève, la grève féministe, on la réinvente pas. C'est un outil qui est présent depuis 1911. Je rappelle, on parle de journée, on parle de grève féministe à peu près. La première vraie grande grève féministe, c'est en 75 en Islande, où il y avait 92% de la population, de la population féminine qui s'était mise en grève et qui avait eu en un jour, du coup, l'égalité dans la Constitution. Donc même si c'est un peu... comment dire, on voit pas mes gestes à la radio, mais même si c'est un peu très institutionnel, c'est déjà une victoire. Mais en fait, ça fait depuis 1911 qu'on parle des grèves des femmes. Enfin, il y a eu des grèves des femmes avant, mais ça fait depuis 1911 qu'on a une journée de lutte des droits des femmes par Clara Zetkin. Il y a aussi d'autres théories qui disent qu'il y a par exemple Teresa Serber-Merkel, qui a une militante juive états-unienne qui a aussi participé à la grève. Donc en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? Depuis une dizaine d'années, en France, on reprend l'outil de la grève féministe, notamment dans la lancée de Ni Una Menos en 2015 en Argentine, qui avait notamment en fait permis, il y avait eu plus de 200 000 femmes à Buenos Aires pour dénoncer les féminicides à l'époque, c'est un toutes les 30 heures en Argentine. Ça avait abouti à un mouvement massif en Amérique latine. En 2018, ces grandes grèves massives, elles ont et ces manifestations, elles ont abouti sur le droit à l'avortement. Donc en fait, nous en France, on est dans une lignée de féministes. C'est-à-dire que se demander quels sont les outils de la grève féministe en France, il n'y a rien de nouveau. C'est juste qu'on l'adapte aux besoins de 2025.
Alors justement, donc, en 2025, avec donc, la montée exponentielle de l'extrême droite en France et en Europe en général, quelles sont donc, les nouvelles choses à prendre en compte pour la grève, justement, pour, parce que j'ai vu beaucoup de choses sur Instagram pour repousser l'extrême droite. Donc quelles sont les... Comment ça se passe là-dessus, quoi ?
Alors, effectivement, en fait, nous, cette grève féministe, elle est antifa. C'est-à-dire qu'en fait, là, on ne peut pas faire une grève féministe sans lutter contre l'extrême droite. Là,
alors qu'avant, c'était pas antifa.
En fait, avant, elle était déjà, il y avait déjà des perspectives contre les extrêmes droites, contre l'antifascisme. Mais là, on est quand même dans un contexte mondial où on a le colonialisme et l'impérialisme israélien qui est en train de commettre un génocide à Gaza, et je pèse mon mot, ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Nous avons actuellement Trump et Elon Musk qui sont en train de faire des saluts, on a Elon Musk qui est en train de faire des saluts nazis, ou pardon, des saluts romains qui a été repris par Mussolini, donc c'est peut-être fasciste, on ne sait pas trop. Et on a des lois qui sont en train d'être faites, par exemple, rien que le fait que les passeports des femmes transgenres soient mis hommes. On a en France bah, les montées des extrêmes droites, hein, je ne vais pas vous rappeler avec les élections, ça on l'a déjà vu. On a des lois qui vont vers une suppression, par exemple, de l'aide médicale d'État, qui permet à des personnes immigrées qui viennent... qui ne peuvent plus se faire soigner. On a des lois donc, contre des lois massives de Retailleau, l'ordre, surtout donc, pour faire des politiques migratoires qui sont totalement racistes et xénophobes. On a des menaces pour les femmes musulmanes, on voit qu'on leur retire le port du voile dans le sport. On a des menaces, on a des menaces aussi pour les femmes transgenres, pour l'autodétermination. On a, en fait, on a une flopée de choses qui ne vont plus politiquement. Et là, on voit ça en Italie, le score de l'Allemagne, second tour, l'extrême droite. Donc là, en fait, si on ne fait pas une grève féministe antifa maintenant, mais on l'a fait quand, cette riposte féministe antifasciste ?
Ouais, exactement.
On l'a fait quand ? Moi, je pose la question. Donc, c'est pour ça que nous, on a voulu axer sur l'extrême droite. Et par exemple, là, le 25 janvier, on avait organisé à La Parole Errante un événement où il y a eu plus de 1000 personnes. Bon, ça, le chiffre, voilà. Mais c'était pour dire qu'il y a... Où, en fait, on avait fait riposte contre l'extrême droite. Et on avait invité des orgas antifascistes. On avait invité d'autres organisations pour faire des tables rondes, pour faire des discussions. Et le fait qu'il y ait eu plus de 1000 personnes... Ça a permis, ça montre en fait que les gens, ils ont besoin de se retrouver pour lutter contre l'extrême droite. Juste, ils ont besoin de lieux militants. Et donc, là, il faut qu'elle soit antifasciste. Enfin, là, je vois pas comment ne pas être antifasciste.
Très bien. Donc, je pense que on va passer à l'interlude musicale, apparemment.
Oui, tout à fait. Et comme c'est moi qui décide ce soir, je vous ai évidemment prévu un son de Meryl. Ça s'appelle Patate et c'est sorti vendredi dernier.
C'est ni les femmes de la faute, t'as lâché les châteaux de mémé. Tous les week-ends, c'est Jets qui nous a mené. Sauf que tout le monde n'a qu'à récolter ça, y'a aussi même. Couillon, y'a été qu'à 6 mètres, nous a travaillé toute la semaine. Patate, maman. Tombé en janvier, mais depuis ça, nous a pris des belles pieds. Fouillé, depuis c'est patate, maman. Ils savent pas ça fait, ils savent mon panier faille. Fouillé, planté, récolté, piché. Tweet-li. Mon lien m'a fouillé, m'a piché ou pas, j'ai fait ça qu'on voit. Mon lien m'a travaillé ou pas, j'ai fait ça qu'on voit. Maintenant, on l'a dans l'igal de même, ouais, ouais. Et si on joue, on volait tout l'or à qui on l'aime, ouais. C'est
minimum 2, minimum 3 ou minimum 4 fois.
Fais mon mis, si c'est en l'air la pata. Fais 4 la pala, il faut c'est pas toi. Patate, maman. Tombé en janvier, moi, depuis ça, nous avons des belles pieds. Fouillé, depuis c'est patate, maman. Ils savent ou pas ça fait, ils savent mon panier faille. Fouillé, planté, récolté, piché. Tweet-li.
Jeune femme, c'est vive à la mine pour fouiller patate là. Tu aimes ça, well, jump à l'essa. Ou ça, right, ça, et right, you val là. Jeune femme, coûte ça, nadoula. Tiki tiki tak tak, chebo ou panat nat. Ouvle tout, ou pas vle ti tak tak. Ben your backpack, let me see that that. Aïe, faut aïe, soit fat pour si kat kat.
Patate, maman. Tombé en janvier, moi, depuis ça, nous avons des belles pieds. Fouillé, depuis c'est patate, maman. Ils savent ou pas ça fait, ils savent mon panier faille. Fouillé, planté, récolté, piché. Tweet-li. 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 Mi, c'est fouillé.
Santé, récolté, péché, treat-li. Ou pas, j'ai fait ça qu'on sait. Baby, pas les en backseat moto, il est en big loto. Ils savent pas qu'à faire zéro. Zéro, compte tête toto. Donc nous en check au coco. Baby, pas les en backseat moto, il est en big loto. Ils savent pas qu'à faire zéro. Zéro, compte tête toto. Donc nous en check au coco. Papa, patate maman. Tombé en j'en ai moins depuis ça, nous capons des belles pieds. Fouiller depuis ces patates maman. Ils savent pas ça fait, ils savent mon panifaille. Fouiller, planter, récolter, plicher. Treat-li, mi c'est fouillé, planté, récolté, cliché. Treat-li, ou pas j'ai fait ça comme ça.
C'était le single Patate de Meryl, sorti le 28 février dernier en featuring avec Black Boy. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et avec les FM Rêve. Voilà, Sam, je te laisse la parole.
Oh, la parole. Donc, pour continuer cette interview, je voulais savoir, donc Clémence, comment on peut faire pour amener le plus de gens possible à la grève, notamment. Comme on le disait entre-temps, les femmes qui donc, font des métiers nécessaires comme aide à domicile, ce genre de choses, comment on fait pour les sensibiliser et les faire venir?
En fait, ça, c'est une excellente question, parce que c'est vraiment la question qu'on se pose toute l'année, en fait. Mmh. C'est vraiment en filigrane de nos questions. Pour ça, je pense qu'il faut revenir un petit peu peut-être sur une définition de la grève féminine. Qu'est-ce que c'est? En fait, la grève, c'est quand on arrête le travail salarié. C'est-à-dire que les personnes, on arrête de travailler. Quand vous êtes prof, vous arrêtez de travailler. Quand vous êtes ouvrier, ouvrière, vous arrêtez de travailler. Quand n'importe quel est votre métier où vous êtes rémunéré, vous arrêtez. Dans la grève féministe, il y a également l'arrêt du travail gratuit qui comprend le travail qu'on dit « reproductif », entre guillemets. Enfin non, le travail reproductif. Avec la garde des enfants, la cuisine, le ménage, en fait tout le travail que vous faites après. Et on voit qu'aujourd'hui, en France, il y a encore 80% des femmes qui font, des femmes des minorités de genre qui passent plus de une heure par jour à le faire, contre 34% des hommes. voilà. Donc on voit que la grève féministe, sa particularité, c'est d'arrêter le travail salarié et à la fois le travail gratuit. Et là, cette année, on a beaucoup eu « mais pourquoi faire grève le samedi ?» Mais tout le monde n'est pas prof, Corentin. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a des actuellement, dans les métiers du care, qu'on va appeler du care, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignantes, les aides à domicile, les personnes qui s'occupent des personnes âgées, dans les maisons de retraite, tout un panel qui sont souvent 70%, ce sont des femmes qui, plus de 70% même dans certains corps de métier, et aussi des personnes migrantes, des personnes racisées, des personnes qui peuvent avoir aussi, qui sont précaires en fait. Et le samedi, on travaille quand on est aide à domicile. Enfin, les personnes, elles n'arrêtent pas d'avoir besoin d'une infirmière le samedi. Ouais. Les personnes, elles n'arrêtent pas d'avoir besoin d'une aide-soignante pour se laver en maison de retraite le samedi.
Alors du coup, comment on fait pour amener ces personnes?
Eh bien, bonne question. En fait, je pense que c'est un travail de terrain. Déjà, on utilise, nous, le levier du 8 mars, c'est-à-dire que nous, on parle beaucoup de grève féministe au moment du 8 mars pour justement le visibiliser. Mais en fait, dès qu'il y a un grand mouvement social, je pense qu'il faut que la grève féministe, elle suive tout de suite. En fait, c'est ça le principe. Donc pour ça, nous, on fait beaucoup on essaye de faire des ateliers de sensibilisation à la grève. Aussi, rappeler aussi le droit aux gens. C'est-à-dire que si vous êtes dans le privé, il y aura forcément un syndicat. Une heure de grève est une heure pas payée, mais le reste de votre journée, elle peut payer, donc vous pouvez faire grève une heure. Organisez-vous avec les personnes qui sont présentes. Donc ça, il faut rappeler en fait le droit aux gens. Par exemple, si vous êtes à domicile, vous avez des syndicats, vous avez le droit de faire grève. Et aussi, les syndicats ont des caisses de grève. Les syndicats ont des caisses de grève. La CGT, elle a des caisses de grève. Solidaires, ils ont des caisses de grève. La FSU, ils ont des caisses de grève. En fait, il faut dire aux gens, vous avez le droit de faire grève. Si vous faites grève, on comprend qu'une journée de salaire, pas tout le monde ne peut la payer.
Ouais,
donc dans ces cas-là, rappelez leurs droits syndicaux aussi, d'aller demander des caisses de grève et de nous aussi d'organiser des cagnottes. Nous, par exemple, au moment de la grève d'Ibis Batignol, on avait participé aux caisses de grève qui avaient été organisées. Un an et demi de grève victorieuse, je rappelle, face à Accor Hôtel Arena, quand vous êtes sous-traité par des personnes qui vous payent des clopinettes pour faire un travail incroyable. un énorme travail, excusez-moi, sans caisse de grève, vous ne pouvez pas tenir. Donc si elles ont tenu un an et demi, c'est grave aux caisses de grève. Et donc il y a aussi, on se sert nous un peu des réseaux sociaux pour sensibiliser, mais on pense que nous c'est dans le terrain et dans la rue, et en fait c'est en parlant dans ces lieux de travail.
Oui, pardon. Et du coup, au-delà des femmes qui ont ce genre de métier et tout ça, dans les mouvements féministes, dans la grève du 8 mars et tout ça, comment on fait pour intégrer la cause LGBTI, par exemple, les personnes qui se sentent pas trop incluses dans les mouvements féministes, parce qu'on a un peu cette vision binaire des mouvements féministes, en fait c'est les femmes, peut-être les femmes transgenres, mais on voit bien dans certains collectifs que pas du tout.
Oui.
Donc comment on fait pour inclure tous ces gens-là?
Là tout de suite, je suis désolée, mais la première chose qui me vient en tête, c'est que déjà le féminisme sans les femmes trans, c'est pas du féminisme. Ouais. Il y a un moment où aussi, par exemple, notamment dans... les femmes trans, elles ont le droit d'avoir leurs droits salariés. Dans le féminisme, si on ne parle pas aussi des spécificités, là, par exemple, l'autodétermination est un enjeu de la grève féministe. En fait, mon corps, mon choix, ça comprend quoi? Ça comprend l'autodétermination pour les femmes transgenres, pour les personnes non binaires, pour les hommes transgenres. L'autodétermination, mon corps, mon choix, ça comprend aussi le travail du sexe, donc les travailleurs et les travailleuses du sexe. En fait, il faut comprendre que l'autodétermination est un enjeu de la grève féministe actuellement. Comme l'accès à la PMA pour tous, et pas que pour les femmes blanches cisgenres, c'est aussi un enjeu. Donc la grève féministe, ça comprend énormément de panels. Et aussi dans le CARE, dans ce qu'on appelle le CARE, tout le travail souvent qui est vraiment porté dans la communauté LGBT, de s'aider entre nous, de recomposer nos familles, tout ça, c'est aussi du travail reproductif. J'aimerais rappeler que c'est du travail que c'est du care non rémunéré. Le nombre de fois où dans la communauté LGBT tu te retrouves à 23h à aller aider une amie, soit parce qu'elle a subi des insultes transphobes, soit parce qu'elle a subi des insultes LGBTIophobes, soit parce qu'elle se sent pas bien, parce qu'elle est repoussée par sa famille, excuse-moi, je pense qu'on en a tous ici à l'appel.
Exactement. Donc on rappelle que la grève féministe est aussi donc, pour les minorités de genre, et pas seulement pour les femmes. Venez. Et je voulais savoir aussi, il y a, comme je l'ai dit, des collectifs qui sont fémonationaliste, donc je le rappelle, des femmes qui utilisent la cause féministe à des fins racistes, xénophobes, qui ne sert pas la cause féministe finalement. Par exemple, Nous Vivrons ou le collectif Némésis arrive à s'intégrer dans ces mouvements-là, comment on fait pour les repousser finalement?
Déjà rappeler que ce ne sont pas des collectifs féministes. Déjà, commencer par la base des bases. Quand tu pour le cas, par exemple, donc de Némésis, quand tu soutiens des politiques xénophobes, migratoires, contre les migrants, là, on a vu...
Peut-être que tu peux juste rappeler qui est Némésis.
Ah, pardon, excuse-moi. Oui, t'as raison. Non, mais c'est vrai qu'on parle un peu entre... Oui. C'est tellement au centre du sud-débat. Némésis, en fait, c'est un groupe d'extrême droite qui se dit féministe, comme beaucoup de groupes, mais qui, en réalité... soutient surtout les personnes blanches, hommes et femmes, par exemple, elles sont contre le port du voile, elles sont pour les politiques racistes, xénophobes, contre les migratoires, elles sont très liées, elles sont connues pour ça, elles sont beaucoup dans la région de Genève, mais elles sont dans toute la France actuellement. On voit qu'elles sont soutenues par un certain ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Nous, elles ne peuvent pas défiler avec nous, en fait. À partir du moment où tu es contre le droit de certaines femmes, tu pars, en fait. Il n'y a pas de débat à avoir. Nous vivrons, quand tu soutiens une politique, donc je rappelle, Nous Vivrons, donc c'est un collectif qui s'est formé après les attaques du 7 octobre où il y a plus de 1000 personnes qui sont mortes et que nous aussi on condamne. On n'est pas pour tuer 1000 personnes, mais il y a un moment, elles n'ont jamais eu un mot pour les victimes palestiniennes actuellement de ce qui est en train de se passer à Gaza. Je rappelle, elles n'ont jamais eu un mot. Elles soutiennent une politique impérialiste qui est colonialiste, excusez-moi. Mais où on va intégrer dans des mouvements féministes des personnes qui soutiennent une répression coloniale et impérialiste qui est en train de tuer des milliers de personnes, dont des femmes, des enfants, des hommes, des minorités de genre? Il y a un moment, c'est pas possible. Donc nous, notre stratégie, c'est on ne défile pas avec l'extrême droite. On ne défile pas avec l'extrême droite. Nous sommes le retour de flamme, donc nous ne voulons pas défiler avec l'extrême droite. Donc si nous vivrons et Némésis, nous ne défilons pas.
Ah d'accord.
Mais il y a des... Ne vous inquiétez pas, le mouvement, on peut pas trop en dire.
Oui,
nous
bah
sommes
oui.
un peu ta-ta-ta. Mais le mouvement féministe, et nous, c'est pour ça qu'en fait, on s'est rapprochés de maximum d'organisations pour pouvoir organiser cette manifestation. Par exemple, c'est pour ça qu'on débat, par exemple, avec Grève Féministe, où il y a le CNDF. L'année dernière, l'appel, il avait été signé par exemple, Nous Toutes. Enfin, il y avait plusieurs organisations, l'AG Féministe Paris Banlieue, il y avait plusieurs organisations qui l'avaient signé. Nous, cette année, on s'est remis dans le truc parce qu'en fait, nous, notre stratégie, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a l'extrême droite.
D'ailleurs, tout à l'heure, tu as mentionné l'événement que vous aviez organisé à La Parole Errante, où vous avez réuni plus de 1000 personnes. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de personnes qui viennent? Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment plus vivant, de personnes qui vraiment veulent se mobiliser activement et qui vous contactent ou d'autres associations?
Ben, en fait, nous, vraiment, quand on a vu qu'à 14h, tout le monde était là pour la table ronde, c'est-à-dire à l'heure. Excusez-moi, est-ce que vous avez déjà vu des antifas à l'heure? Moi non. Donc vraiment déjà quand j'ai vu des antifas à l'heure, j'étais en mode bah qu'est-ce qui se passe? Et en fait sur la journée, ça n'a pas désempli. Et en fait, on ne ment pas sur les chiffres parce qu'à 16h30, on a stoppé de compter, on était déjà à 750 et c'est jusqu'à 22h que du monde s'en rentrait. Donc on ne ment pas sur les chiffres. Voilà, c'est pas selon la police, c'est selon nous et c'est vrai. Voilà. Et en fait, moi je pense en fait ce qu'on a beaucoup entendu, c'est super d'avoir un événement comme ça sur Paris, et en fait les gens sont soulagés. Et en fait, je pense que nous en tant que collectif, ce qu'on doit dire aux gens, c'est vous pouvez vous organiser, vous pouvez militer, c'est de rejoindre des syndicats, de rejoindre des collectifs, de rejoindre des associations, parce que la lutte en fait sur Instagram, ça suffit pas. Si vous pouvez, si vous avez les moyens physiques de vous intégrer dans la lutte dans la rue, dans la lutte dans le militantisme, il y a forcément, surtout à Paris, excusez-moi, mais il y a forcément un collectif qui vous va. En France, au niveau féministe, vous avez la coordination féministe qui organise d'ailleurs la campagne Grève Féministe contre l'extrême droite, dans laquelle il y a plus de 200 organisations en France, dont les féministes révolutionnaires font partie. Mais en fait, vous avez des endroits où vous pouvez vous retrouver, et ça fait du bien de se retrouver même une fois toutes les deux semaines, une fois par semaine. Vous êtes avec des gens. Vous êtes là pour vous organiser contre une menace, quoi. Enfin, contre une menace de l'extrême droite. Et ça fait du bien que ce soit. C'est pour ça que tout à l'heure, on va parler des endroits, des bars LGBT. c'est aussi important ce genre de lieu.
Justement, donc, quelles sont les actualités de féministes révolutionnaires, là, juste après le 8 mars?
Alors, après le 8 mars, déjà, je pense qu'on va dormir le 9 mars. ensuite, nous, c'est de continuer la perspective antifasciste, c'est-à-dire continuer de faire du lien. Aussi, je rappelle que la marche de nuit du 7 mars, elle vient d'être interdite par Laurent Nunez, le préfet de Paris, parce qu'il y a le collectif de défense des droits des Palestiniens et des Palestiniennes, Samin Doudne et Urgence Palestine. Nous réitérons notre soutien ces deux organisations et à la marche qui est organisée par les Féministes Paris Banlieue. Ensuite, le 8 mars, vous pouvez nous retrouver dans notre cortège. Il y aura de la musique, ça va être sympa.
Donc à partir de 14h.
Exactement. Et après le 8 mars, nous, on va continuer la riposte antifasciste en continuant de tisser du lien, à la fois avec d'autres collectifs comme Urgence Palestine, à la fois en continuant de parler avec tous les collectifs féministes de Paris, à la fois en gardant du lien avec les organisations antifascistes. En fait, là, la riposte, elle va continuer.
Merci beaucoup.
Merci pour toutes ces infos. Clémence et Sam, vous restez avec nous pour le reste de l'émission, mais c'est l'heure de la chronique de chat. Père Castagne, vous pouvez revenir vous asseoir, c'est l'heure de... Mais qu'est-ce que tu fais?
Merde, pardon, personne ne bouge! J'ai perdu un post-it! Zoé, lève les pieds! Mais pas trop fort, tu vas le faire fuir, arrête!
Père Castagne, c'est pas grave, on va le retrouver, mais il faut commencer votre chronique, là.
Mais j'ai pas le temps de faire une chronique. Non, mais tu comprends pas, je dois boucler mon bilan comptable et il manque le CA prévisionnel pour déclarer la CFF et anticiper le CAG non déductible. Oh, j'y arrive même plus. Bon... D'accord, puisqu'il le faut. Allez, 3-4, tous en cœur. Père Castagne,
raconte-nous une histoire, Père Castagne.
Vous êtes content de m'exploiter, hein? Bon, je pensais avoir trop d'étiquettes quand je me présentais comme Gwyn, butch, non-binaire, trans, prolo avec un TDAH, mais depuis que je suis micro-entrepreneur, bah, je suis formateur, comptable, gestionnaire, RH, graphiste et community manager SpeCanva. Avant, je lisais des romances lesbiennes, maintenant je dévore le journal officiel du ministère des Finances. Au secours. Parce que je sais pas si vous avez vu. Mais le gouvernement, à grand renfort de 49.3, a fait passer en force le projet de loi de finances PLF pour les intimes. Et dans ce projet de loi, il y a l'article 10 qui vise à abaisser le seuil de franchise de TVA à 25 000 euros pour les micro-entreprises. Et là, vous vous dites, ça y est, Père Castagne a rejoint le camp ennemi, il a viré macroniste option requin de la finance. Et c'est vrai qu'il est assez facile de confondre auto-entrepreneur et start-upper. Une start-up, c'est une entreprise. Une auto-entreprise, c'est un prolo au bord du burn-out avec une relation compliquée avec l'URSSAF.
Mais c'est pas un peu de droite, l'auto-entreprise ?
Certes, le régime auto-entreprise naît en 2008 sous le gouvernement Sarko-Fillon. Bouh ! Ah ouais, aucun soutien quoi.
Ouh !
Merci. Et réformé en 2020 par le gouvernement Macron. Bouh !
Bouh !
Merci. Heureusement qu'il y a Sam. Hein. Et c'est un statut imparfait, mais voilà, on se doute que le projet, c'est de nous plumer, mais n'empêche, il a ses avantages. Il permet de survivre dans le système capitaliste quand on n'arrive pas à rentrer dans le moule de l'emploi en CDI à temps plein. Dans sa dernière étude, l'INSEE raconte que six créations d'entreprises sur 10 sont des micro-entreprises. En mars 2022, les secteurs les plus concernés par ces créations sont des commerces, dont la restauration et les réparations automoto, les activités de conseil, les services au ménage et les activités liées à l'éducation, à la santé et l'action sociale. Traduction des métiers du service et du care. Des prolos, des bacs pro, des andis, des meufs racisés et des queers. Et tout ce petit monde, qui est expert dans sa pratique mais n'a aucune formation en comptabilité ni gestion financière, fait de son mieux pour déclarer ses revenus, payer ses cotisations tous les mois en évitant les pièges de l'URSSAF, le tout avec le sourire pour un chiffre d'affaires mensuel moyen d'à peine plus que le SMIC. En abaissant le seuil de franchise de base de la TVA à 25 000 euros. Restez avec moi, je vous jure, c'est important. Le chiffre d'affaires annuel, ça veut dire que les micro-entrepreneureuses ont deux options. Soit tu dépasses le seuil, c'est-à-dire tu dépasses les 1516 nets après que l'État t'a pris presque 700 balles de cotisation, ça fait mal. Soit tu gères ton activité avec la sobriété d'un maître stoïcien et tu ne dépasseras jamais, jamais un salaire mensuel de 1562,17 €. Pour rappel, le SMIC c'est 1398,69 € net et un loyer à Paris c'est entre 600 et 1000 balles. Bon, le calcul est fait. En gros, tu restes précaire, mais tu bosses davantage et tu stresses en permanence de peur de dépasser le seuil si tu as l'audace de te faire payer à la hauteur de tes compétences.
Il n'y a pas la possibilité de récupérer la TVA quand on fait appel à une micro-entreprise ?
Oui, mais seulement si tu es une entreprise. Pour les clients particuliers associatifs, c'est-à-dire la majorité de nos clients, eh ben c'est impossible. Avec cette baisse de la franchise de base de TVA, même le nom il m'agace, on dit en langage financier que les micro-entreprises perdent en compétitivité. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que les précaires, les prolos, les queers vont perdre leurs activités faute de clientèle. Ça concerne ton coiffeur, ta coiffeuse au prix non genré. C'est le barman ou la barmaid qui te sert des verres dans les grosses soirées LGBT. C'est les petits créateuristes sur les marchés de Noël, ta tatoueuse ou encore l'artiste qui prend soin de tes piercings. Mais aussi les camarades racisés qui prennent en charge le ménage et les enfants pendant que les féministes bourgeoises se libèrent du patriarcat. Bref, il faut changer ce statut, mais pas en sacrifiant les adelphes qui échappent au salariat. Cette réforme, elle devait être appliquée au 2025, suite au 49.3 utilisé par l'Assemblée. Mais il reste le vote du Sénat pour la valider. Et justement, il y a une pétition qui est lancée pour demander la suppression de cette réforme. L'objectif des 100 000 signatures est atteint. C'est celui qui nous permettait de la transmettre à la conférence des présidents, aka les grosses huiles du Sénat. Là. Donc ça, c'est bon, mais on en a besoin de plus. Toujours plus de signatures, parce que sinon, la pétition n'aura pas de chance d'être prise en compte dans le vote des sénateurs. Tout ça pour dire que oui, demain, on renverse le capitalisme. Mais en attendant, s'il vous plaît, allez signer la pétition.
Merci Chat pour ta chronique et on va enchaîner avec une petite pause musicale. Un autre single qui est aussi sorti le 28 janvier de Lala Rami, chanteuse et rappeuse notamment connue pour son EP Inch'Allah qui était sorti en 2021. Et elle revient en force avec le titre LRRN sorti il y a quelques jours.
Je colonise l'Amérique, elle sur toutes les lèvres, c'est véritique. Ton rappeur préféré, le Hassman, qui s'interdit la langue arabe, jamais la langue à Jacques, je suis Eva Longoria, t'es Bernadette Chirac. Moi je fais des plateaux, t'as peur qui te plaque, je fais la pop, le rap et j'enlève le sac. J'ai si et les mélos, fuck ta carrière, c'est Dieu qui m'a fait des lobes. T'as fait les frontières, popstar, car je suis populaire, je suis leur reine initiale. Je colonise le monde, c'est ma république. Tout est organique, j'ai un vrai public. J'suis une vraie meuf qui fait de la vraie musique. Tu veux pas qu'ils sachent qu'on gagne? Tu veux pas qu'ils sachent qu'on se gagne? Tu veux comme baiser, ne rebaiser? Personne le sache, mais j'suis béni comme la Palestine. À la même lane, ils me jettent la haine. Tout pour la fame, ils sont tous pareils. Dis machallah, j'suis Margiela. Mais c'est shame, donc j'suis fame. Ice down comme Gucci Mane. C'est que le début de mon règne. Ice down, mais j'parle pas de chaîne. J'suis une marfa qui vient dans un monde de chaîne. Et dans l'arène, j'suis la reine. Leur plume me fait de la peine. Le pain bin doing a
TV. They wanna kill me. Left my home country. And now you're dirty. Everywhere is the same. They know my name, baby. I don't do it for the fame or the game. I end up being the entertain. Fuck the light on me right now. Do you wanna fuck the light on me right now? Do you wanna fuck the light on me right now?
C'était le titre LRRN de Lala Rami et maintenant on passe en deuxième partie d'émission avec trois invités. Nous avons Hélène du Bonjour Madame, Hélène du Mont Vénus à Montreuil et Astrid de l'association du Passage. Et je passe la parole à Emma qui va interviewer toutes ces belles personnes.
Bonsoir, bonsoir à tous. Donc comme Zoé l'a dit, nous avons le plaisir de recevoir Astrid et non pas une mais deux Hélène. Je suis ravie. On va commencer par le Passage. Astrid, tu es la représentante du Passage. C'est un café queer populaire.
Exactement.
Qui organise des événements depuis un peu plus d'un an et demi.
Un peu moins.
Un peu moins.
On a fait notre premier event le 3 mai dernier.
Ah.
Mais ouais.
Ok. Et sont en recherche d'un lieu où poser leurs valises et leurs super idées dans le nord-est parisien.
Exactement.
Vos soirées visent à mixer différents publics, queer, non queer, toutes tranches d'âge confondues, et visent à faire de la pédagogie sur les questions de genre et d'orientation sexuelle. Du coup, c'est des soirées qui mélangent quiz, jeux, stand-up, DJ set. Vous organisez aussi des marchés de créatrices. Il y en a eu un à Ménilmontant et un au Point Éphémère, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Hâte du prochain.
C'est bientôt.
et
le 5
coup,
avril.
On va avoir un petit moment à la fin de l'interview pour un petit moment agenda. Comme ça, on pourra donner toutes les dates et les gens seront prêts à prendre des notes. Du coup, vous organisez des gros événements à peu près tous les 3 mois, mais aussi avec des organisations de plus petits événements un peu plus régulièrement. Et en fait, vous êtes en recherche d'un lieu, vous êtes activement en recherche d'un lieu en ce moment. Donc, vous êtes aussi dans des incubateurs de projets que tu pourras peut-être nous en parler un petit peu plus.
Mais avec grand plaisir.
Tout à l'heure. Hélène. Tu es.
Laquelle ?
Bah, il va falloir deviner. Il va falloir reconnaître les voix.
Voilà.
Tu es. Est-ce qu'on peut dire co-gérante ?
Je suis officiellement la gérante sur tout ce qui est administratif.
Okay.
Andrea m'accompagne dans la vie privée sur le projet Mont Vénus.
Ok, super. Donc, gérante du Mont Vénus à Montreuil.
Ouais, c'est bien ça.
Vous avez ouvert. Donc, c'est un bar à cocktail queer et féministe.
Mm-hmm.
Vous avez ouvert. En février 2024.
Yes, on vient de fêter les 1 an, il y a le week-end dernier.
Bravo.
Bravo. Donc, ce qui est super intéressant avec le Mont Vénus, c'est que c'est le premier bar queer en banlieue parisienne. Moi, je suis très curieuse d'en savoir un peu plus sur ce que c'est d'entreprendre quand on est queer dans un milieu qui est encore très, très masculin, parce que c'est spécifiquement un bar à cocktail.
Mm-hmm.
Ouais, voilà, milieu d'être. Loin d'être toujours safe. On revient dessus après. Et Hélène, du Bonjour Madame. Le Bonjour Madame, bah, c'est un lieu queer et militant historique à Paris, dans le 11e arrondissement. Vous avez ouvert en 2019.
Ouais, c'est ça, ça va faire 6 ans bientôt.
Bon, voilà, que dire sur le Bonjour Madame. Je pense qu'on connaît tous cet endroit. C'est pareil, vous organisez des événements, drag show, jeux.
Ouais, des ateliers, des conférences où on accueille plein de formats très très différents.
Et vous êtes aussi un bar, qui a ses habitués à Paris. Vous êtes. Oula, J'ai perdu tous mes mots. Vous êtes installée dans la scène queer parisienne. Je voulais commencer par parler de la sociabilité queer. C'est plus important que jamais aujourd'hui, je pense, de se retrouver, de sociabiliser ensemble, aussi de créer et de participer à des endroits safe pour nous. Même dans une capitale comme Paris, finalement, il n'y a pas tant d'endroits spécifiquement dédiés aux personnes queer. Voilà, j'imagine que ça doit être un gros challenge d'entreprendre quand on est une personne queer aujourd'hui, surtout dans un climat aussi tendu que celui qui est le nôtre aujourd'hui. Donc on vient d'apprendre que la marche du 7 mars avait été interdite, c'est un des exemples. Je voulais aussi revenir brièvement sur la fermeture du Bonjour Madame l'année dernière, si ça te va d'en parler. Mais d'abord, je voulais commencer sur un peu le parcours de chacun de ces lieux. Astrid, est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu la genèse du passage? Qu'est-ce que vous rencontrez encore comme difficulté? Comment vous vous êtes organisée pour créer l'association? Voilà, qu'est-ce qui est chouette avec
Super.
Ce qui est chouette, c'est le quotidien.
Non. Alors du coup, le passage, c'est un projet de café queer populaire, comme tu le rappelais très bien. L'idée, c'est de populariser les questions de genre et d'orientation sexuelle pour le grand public. Donc on est vraiment, on a vocation à créer un lieu qui n'est pas 100% queer, mais qui est queer, mais également qui intègre les alliés. Parce que je pense que plus que jamais, on a besoin d'alliés avec nous, étant donné qu'on est une minorité. Et en fait, ça s'articule autour de trois grandes directions. La première, c'est la culture. Et on a besoin de se cultiver, on a besoin même de visibiliser en fait des artistes, des intellectuels queer, sur des sujets qui d'ailleurs ne le sont pas forcément, parce que je pense que ça impacte dans nos vies notre manière de percevoir le monde, le travail, les vêtements qu'on peut porter, etc. etc. Et donc, on essaie de faire ça sur une variété de formats. Donc, c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure du fait qu'on faisait du stand-up, qu'on propose des quiz culture, etc. C'est hyper varié. Le deuxième point, c'est l'insertion. Et ça, c'est un point très important qu'on associe moins encore au passage aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore ouvert et on ne peut pas le mettre en œuvre. C'est le fait qu'on veut embaucher, pas exclusivement, mais notamment des personnes, des bénéficiaires de la Fondation Le Refuge, voilà, pour les accompagner dans leur autonomisation. Et le troisième pilier, et c'est le cœur de ta question, c'est le lien social, la solidarité qu'on peut mettre dans notre quotidien, toutes et tous, à travers des consommations suspendues, à travers de la billetterie à prix libre sur nos événements, etc. etc. Et donc ça, on essaie déjà de le mettre en œuvre aujourd'hui. Et donc maintenant, pour venir au processus, donc nous, ça fait depuis juillet 2023 que l'idée, le projet du passage a émergé. Bon, c'est véritablement structuré en novembre 2023 en tant qu'association. Et donc, à la base, c'était moi qui me disais, tiens, j'ai ce rêve, comme beaucoup de gens, d'imaginer le lieu que j'aurais voulu avoir quand j'étais plus jeune, qui soit notamment un lieu de journée et pas seulement un lieu de fête, pas un bar, mais un café. Donc, nous, on tient vraiment à s'appeler Café Queer Populaire. Si je pouvais faire un lieu sans alcool, je le ferais, mais malheureusement, ça reste une position très clivante. Donc, puis on a besoin de rentabilité aussi, mine de rien. Donc, voilà. Et donc ensuite, c'est des gens qui se sont greffés, notamment une personne que j'ai rencontrée au Bonjour Madame, après une session de collège. Des personnes qui nous ont rencontrées sur les réseaux sociaux, qui ont entendu parler du projet par divers biais. Et en fait, ça donne un collectif qui est mouvant, bien évidemment. Alors, c'est jamais... on me dit toujours, vous êtes combien dans le passage? Et en fait, ça change tout le temps. Pas plus tard que cet après-midi, il y a deux personnes qui ont rejoint le projet. Est-ce qu'elles vont s'investir tous les jours? Est-ce qu'on va s'investir une fois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est... Donc, il y a quand même une core team qui est là depuis... Encore une fois, ça change, hein, mais bon, bref. On a une dizaine de personnes qui sont vraiment très mobilisées dans le projet, notamment le trésorier qui a fait avec moi les différents parcours d'incubation. Donc effectivement, comme tu le soulignais, on est accompagné par divers incubateurs, que ce soit La Ruche, qui est un incubateur de projet Impact, que ce soit Paris, Asenco, qu'on a intégré là en début d'année, et qui nous aide à structurer le projet
et justement avoir une approche qui est à la fois crédible vis-à-vis des pouvoirs publics qui sont un peu nos partenaires aussi en tant qu'association, mais également vis-à-vis du privé, des banques notamment, qui ne sont pas toujours les plus ESS friendly, économie sociale et solidaire, pardon, pour le jargon. Des difficultés apparaît quand on est quelle que soit la structure, trouver un local dans un marché aussi tendu, c'est une complexité. Nous, on tient quand même à rester un projet du nord-est de Paris, on met tout en œuvre pour le faire. On s'en a travaillé pendant 10 mois sur un appel à projet de la ville de Paris qui, spoiler alert, on vient d'apprendre qu'il allait être annulé. Donc on va repartir à la case départ, mais bon, tant qu'on le fait avec le sourire et qu'on a la niaque parce qu'on sait que ce qu'on fait, c'est une cause qui vaut la peine, on va continuer.
En tout cas, on sera là pour vous soutenir et venir au marché de Créatoris.
Mais vous, Hélène, du Bonjour Madame, vous aviez aussi voulu avoir un local via la ville de Paris au début, ou vous aviez toujours,
pas du tout. Ouais, nous, en fait, on a un historique qui est un peu chelou parce qu'en fait, nous, on est vraiment une entreprise. On est vraiment un bar très classique sur le papier. Le parti militant ne se voit absolument pas. Notre comptable, notre banquier ne sont pas du tout au courant qu'on est un militant. On est vraiment une SAS. Enfin, on a un bar hyper. Par rapport à n'importe quel bar que vous pouvez voir dans Paris, c'est vraiment la même structure. Et en fait, nous, pour faire très court, l'une de nous trois, parce que du coup on est trois à avoir créé le lieu, Karen, Esther et donc moi, Karen travaillait comme serveuse au bar qui était là avant, au même endroit mais l'ancienne structure. Et en fait, l'ancien gérant gérait pas top, donc les associés ont voulu le virer. Elle a proposé un projet en nous rameutant, Esther et moi, du coup on a proposé. Donc en fait, notre structure, la société, elle est là depuis 2016, nous on est là depuis 2019, mais du coup nous on n'a pas cherché de lieu, on n'a pas contacté les banques, en fait on est vraiment passé à travailler mal du filet, c'est vraiment une histoire un peu étrange, et ce qui fait qu'on est parfois contacté par des personnes qui veulent monter un lieu, et à chaque fois on est toujours ravis de pouvoir aider, mais c'est vrai qu'en fait on peut aider dans une certaine mesure parce qu'on n'a pas du tout un historique classique. Donc nous, on est parti d'en bas, on a gratté au fur et à mesure, et maintenant on a la tête du bar, mais en fait on a vraiment... pris le temps de faire ça, quoi. Et comment ça s'est passé pour vous au Mont Vénus ?
Moi, j'ai monté le projet. Donc, en fait, j'ai quitté mon taf déjà en premier lieu parce que j'étais responsable de bar près du Marais, quoi. Et j'arrivais pas à lier la création du projet avec le business plan, tout ça. J'arrivais pas à faire les deux choses en même temps. Donc, j'ai pris la décision de me consacrer entièrement à ça. Et je me suis rapprochée de la Chambre des commerces de Bobigny du 93. Donc, c'est un accompagnement qui est sur 6-7 mois pour créer en fait tout ce business plan, cadrer bien toutes tes idées, voir tout ce qui est. Viable financièrement et tout ça. Et donc suite à ça, je suis passée devant un jury en fait d'une dizaine de personnes, que ce soit du comptable, du juriste, de l'avocat, qui ont bien compris en fait que je voulais mettre en avant justement toute la partie LGBT féministe du projet, que c'était indissociable justement de la création de l'entreprise. On a essayé un peu de me dire enlève ça, enlève les femmes, enlève tout ça et tu gagneras plus d'argent. Et au final, c'est bien sûr, il faut gagner de l'argent, mais le plus l'intérêt de créer un bar queer féministe, c'est vraiment de rallier, comme disait Astrid, des alliés justement, et de créer de la sociabilité envers tous, quoi. C'est vraiment ça. Et ensuite, le fait de passer devant un jury, j'ai eu un prêt d'honneur qui m'a permis de consolider mon apport auprès de la banque. J'ai eu aussi deux personnes qui m'ont fait de la love money, donc c'est des personnes proches de toi qui peuvent te donner de l'argent, sous remboursement bien sûr. Et ensuite, donc c'est grâce à ça vraiment que les banques m'ont fait confiance, que j'ai été validée par un jury de professionnels. Et suite à ça, sous même pas une semaine, j'avais le prêt bancaire qui était acté, mais pas encore débité, quoi. Voilà.
Et est-ce que tu as remarqué... quelque chose de différent entre du coup être installé en banlieue et dans Paris en tant que bar.
Moi, c'était vraiment le point le plus important du bar, c'était vraiment d'être implanté en banlieue, surtout à Montreuil, parce que je suis née là-bas et depuis toujours, la ville est très gay-friendly, tout ça. Il y a beaucoup de personnes au sein de la mairie qui sont ouvertement LGBT, mais au niveau toute l'année, c'était uniquement pendant le mois des fiertés, il y avait les rainbows qui étaient affichés sur la mairie, mais Mis à part ça, il n'y a rien qui est fait, quoi. Et du coup, là, on s'organise différemment avec la mairie. On essaye d'apporter une dimension aussi associative à Montreuil, qui est une référence, en fait, aussi au niveau associatif. Parce qu'à l'heure actuelle, à part la Maison des Femmes de Montreuil, bon, c'est assez difficile de trouver un point où tu peux être aidé, quoi. Donc là, courant de l'année 2025, il va y avoir un peu de nouveautés à ce sujet-là au niveau associatif. Et non, on est très bien accueillis par la mairie. On est très soutenus. À l'ouverture, on a eu le maire qui est venu et tout ça. Enfin, il nous a dit quoi, que c'était vraiment très attendu en ville, quoi. En tout cas, ils comprennent bien l'importance, en tout cas, d'ouvrir des lieux de ce type, quoi.
Mmh. Ouais, comme on disait tout à l'heure, ça pallie aussi à un manque évident.
Ah bien sûr, c'est un point. Enfin, moi je trouve, enfin, c'est un point énorme pour moi d'être en banlieue, mais c'est un point énorme pour la ville qui accueille ces lieux-là aussi. C'est, on a beaucoup de témoignages de personnes qui viennent d'emménager à Montreuil qui nous ont dit bah, le fait de voir un bar comme ça ici, bah, ça pèse dans la décision aussi de voir que la ville est ouverte et soutient aussi ces mouvements-là.
Oui, c'est sûr. Et toi, Astrid, pour le passage, le désir de s'implanter dans le nord-est parisien, ça vient de quoi ?
C'est parce qu'on se disait finalement les populations queer, elles glissent de plus en plus vers le nord-est de Paris de par... La hausse des loyers, etc. Enfin, le coût de la vie qui est de plus en plus cher dans le Marais. Donc, en fait, on ne s'imaginait pas dans le Marais. Pour autant, on se disait que pour ouvrir un lieu, notamment un café qui est ouvert de jour, il y avait plus de barrières à l'entrée pour des Parisiens d'aller en banlieue que des banlieusards. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça la banlieue ? Oui. Bon, voilà. Le 21e arrondissement de Paris, de venir dans Paris. Donc, on s'est dit plutôt focus sur le nord-est de Paris. C'est ça la logique. Mmh.
Et le Bonjour Madame, du coup, c'est dans le 11e, bien installé dans le 11e, pas loin de Nation. Donc en plus, vous êtes un peu le rendez-vous des militanteux après les manifestations.
Ouais, ça tombait ça.
Transition sur la fermeture du Bonjour Madame.
Ouais.
Parce que voilà, je sais que vous avez été pas mal ciblée par la police l'année d'avant. Ouf,
c'était 2023, ouais.
2023. Justement, suite, c'était l'arrestation de clientes dans le bar après une manifestation.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, après ça, vous avez subi des contrôles en fait répétés jusqu'à un contrôle de votre licence.
Quand on est un bar, enfin quand on a un commerce notamment qui ferme tard avec du bruit, etc., surtout dans notre rue, elle est assez calme, donc on est un peu celles qui font le plus de bruit. On est souvent contrôlé par la police, non, mais ils passent et ça peut être un truc voilà, de venir, les voisins appellent parfois, enfin c'est un truc quoi. Ça ne nous est pas beaucoup arrivé. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu les grosses manifs, en fait, c'était les manifs contre la réforme des retraites qui a eu au début 2023, et où beaucoup, effectivement, s'unissaient à Nation ou à Bastille. Et donc, ça tombe assez bien. On est pile entre les deux. Donc, on est souvent le rendez-vous post-manif pour notre plus grand bonheur. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on a eu de plus en plus de contrôles de police. Jusqu'à un soir où effectivement c'était après une manif et ils sont passés plusieurs fois devant la rue, mais aussi parce que c'est sur le trajet pour partir de Nation, ils passent dans notre rue pour rentrer je ne sais où mais dans leur maison et voilà, et en fait il y a eu un peu des provocations de notre côté, du côté de ma clientèle et du leur et puis en fait ça s'est escaladé quoi, jusqu'à l'arrestation que moi j'estime complètement abusive. Mais ça n'engage que moi. De nos camarades. Après, ça a été un peu crescendo. Le problème avec cette histoire, c'est qu'ils n'ont rien fait d'illégal, la police. Ils ont vraiment... Tout était dans les clous. Le contrôle, tout ça, tout était complètement légal. Nous, il y avait des erreurs de notre côté, qui étaient complètement des erreurs de notre faute. Donc, ils ont trouvé des trucs. Le problème, en fait, c'est qu'à chaque fois que tu as une histoire comme ça, tu te poses la question, tiens, mais est-ce qu'on a été ciblé ou pas ? Parce que moi, j'estime que c'était disproportionné, la quantité de personnes pour une erreur comme celle-là, etc. Et en fait, qu'on se pose la question de, tiens, est-ce que c'est parce qu'on est queer et de gauche et qu'il faut choisir entre les deux et être les deux, c'est pas acceptable ? En fait, juste que je me pose la question, c'est pas normal. En fait, c'est déjà là qu'il y a un problème. En fait, que ce soit le cas ou pas, que je me pose la question, il y a vraiment un problème. On ne devrait pas avoir à se demander ça, en fait.
Bah, encore une fois, un des seuls bars queer de Paris ciblée d'une manière ou d'une autre par la police qui est obligée de fermer ses portes pendant, c'était pendant quelques semaines.
Ça a duré un mois et demi, ouais.
D'ailleurs, vous avez un super point commun, le Bonjour Madame et le Mauvais-Nus, c'est d'être à côté d'un commissariat.
Oui, tout à fait.
Ça va, vous vivez bien?
Oui. Bah, la proximité, ça va. Ça va, je me dis, il faut mieux vaut être proche de son ennemi, entre guillemets, que moins loin. Quoi,
mais... Bonne logique.
En même temps, ouais. On a déjà eu besoin en fait d'eux et d'elles pour nous défendre un petit peu quoi, et bah, on les attend toujours quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Donc,
Pour conclure rapidement, on fait un petit point sur les actus. Le Bonjour Madame, friperie solidaire.
Oui, organisée ce dimanche par Lexi, qui fait un taf incroyable. Elle est passée là dimanche dernier, elle a collecté plein de vêtements. Et du coup, dimanche prochain, donc dimanche 9 mars, il y a une friperie solidaire. Vous pouvez acheter plein de beaux vêtements et tout sera reversé au FAST d'Acceptacité.
Je serai là. Le Mont Vénus, vous accueillez votre premier comedy club avec le What's Up jeudi soir, donc avant le début des hostilités. Et le passage.
Oui. Alors nous, on a vendredi au We Are Brewers dans le 11e un quiz culture qui va mixer des questions de culture générale et des questions non pas de culture queer comme d'habitude, mais cette fois-ci spécial droit des femmes, des questions féministes pour interroger nos droits, les grandes féministes, etc. Et bien sûr, ces questions-là valent plus de points. Et puis en avant-première, je peux vous dire qu'on organisera notre prochain gros event le 5 avril, samedi 5 avril, toute la journée et toute la soirée au Dog Bay à Pantin. Donc voilà, on sait aussi sortir de Paris. Et voilà. Et donc il y aura un marché créatorie, il y aura du yoga, il y aura une conférence autour du désir, il y aura un drag show, etc. etc. Bon, bref, plein de surprises à venir.
On a trop hâte. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et maintenant, c'est l'heure de la deuxième chronique. Mal, tu vas nous parler de tes prochaines expéditions aux États-Unis, par exemple ?
Oui, ou peut-être pas. En cette belle année qui commence, je vous explique, l'étudiant en thèse que je suis a souhaité partir en conférence scientifique. Donc, si vous ignorez en quoi ça consiste, ben, c'est un rassemblement de plein de scientifiques dans des endroits divers, hein, relativement paradisiaques. Hein. Je vais vous dire, c'est plutôt la Crète que Dunkerque, même si moi j'aime bien Dunkerque. Hein, voilà. Bien sûr, il y a du café gratuit et on parle de science un peu non-stop. Et cette année, ben, j'aurais eu l'occasion effectivement d'aller aux États-Unis, ce qui me semblait une chouette aventure. Je vais vous dire, jusque-là, ma queerness n'avait que très peu impacté ma vie professionnelle, hein, le milieu de la recherche étant globalement accueillant sur ce sujet. Je me surprends même à avoir les fameux privilèges queer, hein, à commencer par mon niveau en anglais, parce que forcément, en tant que personne queer, mon seul pote au collège, sans compter la prof d'art plastique, c'était le prof d'anglais.
On va pas faire un petit sondage sur qui a fait des études d'anglais ici.
Autre privilège, celui de pouvoir abréger le mot photodiode en PD, hein, droit qu'on me jalouse énormément, sachez-le. Mais là, vous voyez, j'ai assez vite déchanté. Parce que oui, Trump est passé par là, et en une semaine après son investiture, je mendiais auprès de mes responsables. S'il vous plaît, je ne veux pas me faire tripoter à la douane et me faire flinguer dans les chiottes. Quelle drôle de chose à dire sur son lieu de travail. Pourtant, elle n'en reste pas impertinente. Dans le viseur de la politique de Trump, on trouve entre autres les personnes trans, blocage des passeports en changeant la mention de sexe, invalidation du neutre, du X, et redéfinition du sexe à la conception. Hein, revenons d'ailleurs sur ça, hein, parce qu'à la conception, eh ben, on rentre tous dans la définition de femme, donc même Donald. Ouais. Donc Donald aurait-elle des choses à nous annoncer finalement ? Eh bien, je suppose, félicitations pour ton coming out. C'était peut-être pas la peine de modifier le sexe de tout le monde, hein, là c'est trop, ça commence à se voir. Bon, voilà, bah, moi je suis soulagé de ne pas aller aux États-Unis finalement, parce que comme je l'avais anticipé, ça ne va pas en s'améliorant. Il y a 3 semaines déjà, on lisait sur les sites du gouvernement, dont le site du Monument National de Stonewall, hein, donc globalement notre terre-terre, hein, l'hommage n'est plus au droit LGBTQ+, mais au droit LGB, hein, voilà, il manque quand même beaucoup de lettres. La dernière qui est tombée, ça c'était la semaine dernière, une directive visant à refuser de délivrer des visas aux personnes dont le sexe déclaré n'est pas celui assigné à la naissance, pouvant même rendre les individus inéligibles à de futurs visas en cas de doute. Voilà, j'ai dû réécrire cette chronique un certain nombre de fois, vu la quantité de délire à la seconde que débite le gouvernement Trump. Et puisque j'ai ma casquette transpédéguine et scientifique, je terminerai par vous parler du dernier, enfin d'un des derniers décrets de Trump, qui interdit une liste de près de 120 mots dans les travaux scientifiques qui seront scrutés par des IA, évidemment, sous peine de se voir retirer les financements. Dans cette liste, on retrouve réchauffement climatique, LGBT, genre, racisme, handicap, mais aussi femmes. Hein, voilà, démerdez-vous avec ça. Alors moi, en attendant, je vais faire mes conférences scientifiques en me promenant en Europe pendant que le technofascisme n'y est pas.
Merci Mal pour ta chronique, bravo. C'est déjà la fin de l'émission et il nous reste juste assez de temps pour un petit agenda. Si vous avez des recommandations à faire, c'est le moment. Et peut-être qu'on peut commencer par toi, Astrid.
Oui, bah alors moi l'agenda je l'ai déjà annoncé tout à l'heure, mais une recommandation culturelle, là j'ai commencé le livre L'empathie est politique il y a quelques jours, et je pense qu'effectivement on a plus que jamais besoin d'empathie, de sociabilité, de solidarité. Et je pense que ce livre en fait la démonstration, donc je vous invite à le lire, il est hyper intéressant.
Est-ce que Chat, tu as une petite recommandation ou est-ce que je lis mal tes signaux?
Oui, on me dit dans l'oreillette qu'il y aurait un village antifa en préparation début mai, le 10 mai.
Alors je ne sais pas si on a très bien entendu, mais il y a un village antifa en préparation le 10 mai où les Femmes Rêves, dont les Femmes Rêves font notamment partie. Et une petite recommandation de la part d'Hélène du Bonjour Madame.
Oui, c'est une autre rubrique Nos clientes ont du talent, puisque c'est une cliente qui a publié son premier roman. Elle s'appelle Senabu Sonko, ça s'appelle Jeans. C'est des éditions Grasset il y a plus d'un an. Et là, ça vient juste de sortir en poche, donc c'est plus que jamais accessible. C'est une petite pépite à aller lire.
Eh ben, merci beaucoup, c'est la fin de ce tour de table. Merci beaucoup Clémence d'être venue nous parler de la grève féministe, Hélène du Bonjour Madame, Hélène du Mont Vénus, Astrid du Passage, merci d'avoir partagé vos expériences au quotidien dans vos diverses structures. On mettra toutes les infos sur le site de Radio Campus Paris à la page du lobby. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce site où nous mettons toutes les références. Merci à toute l'équipe du lobby, merci à Suzanne à la réalisation, Chat et Mal pour les chroniques, Sam et Emma pour les interviews et Colin à la préparation. On se retrouve très bientôt sur les ondes de Radio Campus Paris et sur notre compte Instagram, le lobby RCP. Bonne soirée.